deuxième montée, c'est le septième verset du chapitre 32 de donc Parshat Hazinu. Ce pasuk dit Zechor Yemot Olam Vinu Shnot Dor Vador Shal Avicha Ve'Agedcha Skenecha Ve'Yomrulach. Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours du monde. Binu, on a changé de, on a passé de singulier au pluriel. Binu shnot dor vador. Réfléchissez, méditez les années de génération en génération. Shal avicha, littéralement, on va voir ce que Rachid en dit, mais shal avicha, c'est-à-dire interroge ton père. Ve'yagetra, il te racontera. Zkenecha, tes anciens. Ve'yomrulach, et ils te diront. Rachid dit, Zechor Yomot Olam, souviens-toi des jours du monde. Qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on? Rachid dit, Ma asa barishonim sheikh isu lefanaf. Souviens-toi de ce qu'Hachem a fait aux premières générations qui ont mis Hachem en colère. Donc, de quoi parle-t-on ici exactement? Bien sûr, les premiers qui, c'est la génération d'Oramavoul et la génération d'Enoch, qui ont inventé l'idolâtrie, si vous voulez. On sait très bien qu'ils ont été noyés par les eaux de l'océan, le déluge. Et effectivement, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des gens que voilà qui ont mis Hachem en colère. C'est-à-dire, quand Hachem a créé le monde, il a créé un monde avec une fonction de cette création, à savoir faire reconnaître Hachem. Et les premières générations qui ont mis en colère Hachem, eh bien, elles ont été détruites. C'est les eaux de l'océan ou le déluge. Ils ont été noyés, si vous voulez. Et donc, la première chose qu'on nous dit ici, souviens-toi, ça commence comme ça. C'est-à-dire que si on met Hachem en colère, il y a un niveau de mise en colère qui est tel que ça entraîne la destruction. Binush notdor vador. Réfléchissez, méditez sur les années, effectivement, de génération en génération. Rachid dit, réfléchissez, dor enosh, donc là il explique clairement ce que je vous ai dit, chez Etsif Alem Me Okaios, Hachem a, cette génération, ils ont été noyés par les eaux de l'océan, Vedor Amaboul, chez Shitfam et le Dor HaMaboul, la génération du déluge, qui ont été effectivement noyés par le déluge, comme son nom l'indique. Et puis, donc, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que l'eau, en quelque sorte, les a complètement recouverts et ils ont disparu dans l'eau, quoi, complètement noyés. D'abord, Acher, Rashi ajoute, Une autre explication. L'on est à thème levavchem al sheavar. C'est un reproche qui est fait. Vous n'avez pas prêté attention al sheavar à ce qui a passé au passé. Bilush notdor vador. Réfléchissez sur ces générations là. Les années de général. Léakir, Léaba. Shiyesh biyado leitiv lachem, ou l'amchil lachem, yimot amashiach ve olam abba. Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir sur le passé? Réfléchir sur le passé? Pourquoi? Parce que vous verrez, en réfléchissant sur ce passé, qu'Hachem a le pouvoir de vous faire du bien et de vous amener à au temps messianique, notamment Shiach, et à Olam Haba. C'est-à-dire que si vous réfléchissez, vous verrez que les choses sont dans sa main, c'est dans son pouvoir. Hachem a ce pouvoir et vous êtes invité à y réfléchir. Réfléchir que voilà ce qui arrive avec ceux qui le mettent en colère. Et si vous réfléchissez, vous verrez, vous comprendrez qu'Hachem a le pouvoir de vous faire du bien et de vous faire hériter Yemot HaMashiach Ve'olam Haba. Donc c'est un peu intéressant de voir que c'est la réflexion sur le passé qui est normalement ce qui va nous permettre de comprendre le pouvoir d'Hachem sur le futur. Hachem peut nous donner le futur dont il a parlé, enfin, Yemot HaMashiach et Olam Haba, et comment est-ce que vous allez le savoir, comment est-ce que vous allez pouvoir le reconnaître. Bon, c'est en connaissant le passé. C'est un peu étonnant. Où est-ce qu'on voit dans le passé que Hachem a le pouvoir de nous faire obtenir Yemot HaMashiach et Olam Haba? On voit, dans le passé, on n'a pas eu Yemot HaMashiach et Olam Haba, de telle sorte qu'on sache qu'il est capable de nous donner. Donc la réflexion sur le passé, en quoi est-ce qu'elle peut m'aider, nous aider à comprendre ce qui se passe? Il y a quelque chose, ici c'est une ouverture, on va voir, c'est-à-dire il doit y avoir donc une lecture du passé qui doit nous aider à comprendre le véritable avenir, en fait. Alors, il faut lire la suite du verset. Sha'al avicha. On a traduit interroge ton père. Mais Rachid dit non, c'est évidemment pas ton père. Sha'al avicha, c'est Eloan Vim. Il faut interroger les prophètes. Pourquoi est-ce que le prophète est appelé le père? La notion de père, elle fait référence au fait que, voilà, j'interrogerai celui dont je viens, en fait. Celui qui m'a donné la vie. Alors ici, on nous dit qu'il faut interroger les Nevi'im. Pourquoi les Nevi'im sont appelés des pères? Ils sont appelés des pères parce que eux, ils nous donnent la parole d'Hachem directement. Donc, si j'interroge mon père, il va me dire ce qu'il sait. Bon, ben, c'est évidemment limité. Et ce que lui, il a, c'est quelque chose qui a transité par toutes les générations jusqu'à lui. Si j'interroge le Navi, si j'interroge le prophète, il me donne directement accès à Hachem. Et c'est ça l'interrogation. C'est ça. Il faut interroger. Et Rashi rapporte que c'est pas simplement une image, c'est qu'effectivement dans la Torah, Nikraim Avot, on voit bien que les Nevim sont appelés les pères. D'où est-ce qu'on le voit? On le voit à Sheneemar Be'Eliyahu, Avi Avi Rechev Israël. C'est le prophète Elisha. Lorsque Eliyahu Navi a disparu dans son char de feu, comme tout le monde sait, il l'a appelé, il a dit Avi, Avi. Donc, il l'a appelé mon père. Pourquoi il a répété deux fois Avi? Hazal dit qu'en réalité, il aurait dû dire Avi, Imi. Il aurait dit mon père et ma mère. Donc, on ne voulait pas dire ma mère sur Eliyahu HaNavi, alors il a dit deux fois Avi. Mais en fait, c'est père et mère. C'est-à-dire, l'accès à la véritable, à la source, en fait. Donc, celui qui me donne accès, d'une certaine manière, à ma source. Ça, c'est le Navi. C'est-à-dire, le Navi, il va nous dire quel est le projet divin, en fait. Et c'est à la lumière de ce projet divin qu'il faut comprendre le passé. Et du coup, on va comprendre le passé de telle sorte qu'il puisse nous donner confiance que Hachem veut et il a le pouvoir de nous donner Yemot HaMashiach et Olam Haba. Je demande maintenant aussi Zekenecha. Ça, c'est pas tes grands-parents, etc., ou tes anciens. Eloi Chachamim. Ça, ce sont les sages. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable de savoir ce qu'il y a effectivement au fond des choses. Il faut la Chokhma pour analyser les choses. Donc, il faut la ligne directe, en quelque sorte, que les Nevi'im donnent. Et puis, la sagesse des Chachamim. D'accord? Eux te diront, V'yomru lecha, Arishonot. Eux, ils te diront les événements du passé. Et pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille demander aux prophètes et aux sages les événements du passé? C'est que, il s'agit d'histoire ici. Mais il s'agit pas de l'histoire au sens de la collection des faits. Il s'agit de comprendre comment le projet divin, en quelque sorte, se développe, si on peut parler comme ça. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne veut pas participer au projet divin? Je sais pas, il y a une situation de, tu veux pas, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens qui veulent pas? Eh bien, d'une certaine manière, ils vont être éliminés en quelque sorte. Ils vont être éliminés du monde. Ils n'ont rien à faire dans ce monde, puisque dans ce monde, les gens sont en charge de faire advenir le projet divin. Si maintenant quelqu'un décide qu'il n'en veut, il ne veut pas, il ne veut pas le faire, ça va pas du tout dans le sens du projet divin. Alors, il n'y a plus de place dans le monde. Et donc, quelque part, on va noyer. Ces gens-là vont être emportés par les eaux. Quelque part, ils vont complètement noyer. Ils vont disparaître. Et donc, ici, ce qu'on nous dit ici, il faut connaître l'histoire. Mais il faut connaître l'histoire en ce qu'elle est le récit des rapports de l'humanité avec le projet divin. Le texte continue. Bamchel Elion Goyim Bafrido Bne Adam Yetzev Gmulotamim Le Mispar Bne Israël. Quand Elion, celui qui est au-dessus de tout, a fait hériter les peuples, les nations, Bafrido Bnei Adam, lorsqu'il a séparé Bnei Adam, les hommes, Yatsev Gvulot Amim, lorsqu'il a fixé des limites au peuple, les mispar bnei Israël, en fonction du nombre des bnei Israël. Bon, on comprend pas grand chose. Regardez Rashi. Banchel Elion Goyim, Kishinchil Kadosh Baruch Hu, le Mach Isav, את חלק נחלתם, יציפם ושטפם. On revient sur ce qui a été dit précédemment. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a donné à chacun une fonction, à chaque peuple une fonction précise. Donc c'est ça, Be'anchil Elyon Goyim. Il leur a donné en héritage. L'héritage, c'est la fonction que tu as. On te donne quelque chose et tu dois l'amener à son terme. Lorsque Akadosh Baruch Hu a donné à ces gens qui finalement l'ont mis en colère, ce dont on a parlé plus haut, la génération d'Enoch et du Maboul, il leur avait donné Chelek Nachalatam. Il leur avait donné leur part. Ils avaient une fonction. Chaque peuple avait une fonction bien précise. Mais quand ils se sont pas du tout attachés à faire ce qu'ils avaient à faire, mais au contraire, ils se sont attachés à mettre Hachem en colère, alors Hachem Itzifa Mouchtafam, c'est-à-dire effectivement, il les a noyés, ou bien, enfin, c'est l'océan et le déluge, donc, comme ce qu'on a dit précédemment. Donc ici, les peuples, l'idée c'est, les peuples ont une fonction, tous les peuples du monde. Et puis la deuxième fois, par la suite, il y a eu un nouvel essai, bien sûr. Après le Maboul, il y a eu Noach. C'est-à-dire un recommencement. À ce moment-là, Be'afrido b'nei Adam. Rachid dit Be'afrido b'nei Adam. Que chez Fritz Dora Flaga. Ayabi Yado la'aviram min haolam. Ve'lo asaken. Lorsque les gens ont construit la fameuse tour de Babel, il aurait pu, donc qui était en fait une façon de se révolter contre Hachem. Ayab Yadol Abira Minaola. Il aurait pu, comme il l'a fait pour la génération du déluge, il aurait pu la Avira Minaola, c'est-à-dire les chasser du monde. Velo Asaken. Mais il ne l'a pas fait. Comme vous savez, c'est pas ça la sanction des fabricants de la tour, enfin des constructeurs de la tour. Alors il faut remarquer ici que l'expression qui est utilisée ici, c'est Bnei Adam. Et à la fin du verset, on parlera de Bnei Israël. Bnei Adam, ça veut dire que ces gens-là, ils étaient déjà Adam. C'est un certain niveau Adam. Adam, c'est des gens qui, ils avaient une tâche, ils avaient choisi un certain chemin, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Mais, ils avaient déjà compris quelque chose. Par exemple, vous savez bien, on a prié, et on va reprier de nouveau à Kippour, dans ou le chen ten pach de cha, cette intercalation là, al kol ma secha ve ematcha al kol ma sheberata, yasu chulam aguda echat la sot retzoncha b'levav shalem. C'est-à-dire, demande à Hachem de faire en sorte que l'humanité devienne une aguda. Souvenez, une aguda, le prototype de la aguda, c'est la gouda du loulav. Dans un loulav, ce qui est attaché ensemble, c'est pas trois fois la même chose. C'est pas trois tulipes ou trois roses, etc. C'est un loulav, Adassim et Aravot. Ils sont ensemble. C'est trois choses complètement différentes, avec des qualités différentes, des fonctions différentes, représentent des choses complètement différentes, mais elles sont ensemble. Donc la gouda et chat, dont on doit faire. Il ne s'agit pas d'avoir tout le monde sur le même, exactement sur le même profil, mais que tous, avec chacun sa spécificité, avec chacun ses qualités, etc., se mettent ensemble pour servir Hachem. Donc il y a une idée de, c'est l'humanité tout entière qui doit servir Hachem. Or, cette idée de fabriquer une humanité une, ça ils l'ont eu. C'est ça la tour de Babel. Ils ont commencé par fabriquer une humanité. Mais c'était pour faire le mal. Ils ont déjà compris que l'important, si vous voulez, c'était pas le bon chemin. Mais il y avait quelque chose déjà. La première occurrence, si vous voulez, on pourrait dire quand nous demandons à Hachem de faire en sorte par la peur et la crainte qui va nous inspirer que nous formions effectivement une agouda, je veux dire, on ne demande pas à Hachem de faire quelque chose qui n'a jamais existé. Les hommes ont déjà été capables de faire une agouda. Seulement, probablement, ce qui s'est passé, c'est que au lieu de se mettre au service d'Hachem, etc., évidemment, c'était mis au service de Nimrod, et pas tout le monde parlait la même langue, etc. Ça, on a même trouvé des traces aujourd'hui du roi qui a fait ce travail-là. Il s'appelait pas Nimrod chez eux, il s'appelle autrement, je sais pas si c'est un Sargon ou un autre 3, 4, 5 ou je sais pas combien. En tout cas, on a trouvé aujourd'hui des traces de cette unification, etc. Et pour faire le mal. Mais donc, l'idée est là, ça a déjà existé, cette capacité. Donc, ils étaient Bnei Adam. C'était pas des animaux, etc. C'est déjà des Bnei qui sont Adam. C'est un niveau Adam. Et donc, comme ça n'a pas marché, il faut tout recommencer. Donc, il a fallu, ce qu'Hachem a fait, c'est qu'il les a dispersés. Yatsev Gmulot Amim, Vulot Amim, Imam Vulo Ibdam. C'est-à-dire, Hachem, dit Rashi, il leur a donné la durée, il leur a permis de continuer de vivre, et il ne les a pas détruits. Donc, ils sont là. Il y a quelque chose chez eux qui était déjà un commencement de quelque chose. Alors on va voir le Mispar Bnei Israël. Bishvil Mispar Bnei Israël she'atidin latzetz mibnei Shem ou le Mispar Shiv'im Nafesh shel Bnei Israël she'yardu le Mitzrayim. Etziv gvulot amim shivim lachon. Alors, voilà. Le clan Israël, comme vous savez, quand il va recevoir la Torah, etc., le mispar, le nombre d'Ebnei Israël, c'est le fameux 600 000. C'est ce chiffre-là de 600 000. Alors, en réalité, ce qui se passe quand on dit qu'ils étaient Adam, c'est que, à d'autres endroits, on explique qu'ils étaient à ce niveau de 600 000. Il y avait cette structure, ce nombre était là, le nombre en question. Le nombre d'hommes était déjà là, ce nombre-là, c'est seulement Bnei Adam. 600 000, c'est Bnei Adam. C'est encore rien, d'une certaine manière. Les Bnei Israël, quand ils sont 600 000 à sortir, c'est 600 000, mais ils sont pas... Il n'y a pas encore de peuple. Vous savez bien. Le peuple en tant que tel, il n'existe qu'au pied du Sinaï. Donc, les hommes qui sortent, ce sont des Bnei Adam encore. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils doivent arriver. Où ils n'arriveront que quand ils seront Bnei Israël, c'est-à-dire au pied du Sinaï, quand ils vont recevoir la Torah. Mais, en tant que, si on peut parler ça du nombre, cette capacité, effectivement, de l'humanité, ce chiffre-là, il existait chez les Umot HaOlam, au temps de la tour de Babel, il y avait cette idée-là, mais Hachem les a dispersés, et puis il les a structurés avec des limites, et les limites, dit Rashi, pour les peuples, c'était Shivim Lachon, 70 langues. Il y avait cette langue unique qui avait été imposée à tout le monde pour la construction de... Il y avait les langues auparavant, bien sûr, mais le Nimrod, il a exigé que tout le monde parle la même langue, donc ils ont tous parlé la même langue, Et puis ensuite, Hachem a fait en sorte qu'ils aient 70 ans. Donc on retrouve ici ce fameux chiffre de 70. 70, c'est un pas plus loin, si on peut parler comme ça. Il y avait cette structure à 600 000, une structure à 70. 70, c'est le nombre de Bnei Israël qui sont descendus en Mitzrayim, comme vous savez. Ceux qui sont descendus en Mitzrayim, ils étaient déjà Bnei Israël. D'accord? Mais après, ça s'est un peu perdu, puisque, comme vous savez, les Bnei Israël, l'Ouavdi Abdazara, c'était, ils se sont terriblement assimilés, même s'ils ont gardé certains points. Et donc, Yachele Umota Olam, il y avait cette structure de 600 000 et de 70 qu'Hachem a mise dans le monde. C'est, semble-t-il, l'humanité, elle a besoin de cette structure-là, de 600 000, 70. Alors, le Mispar Bnei Israël, donc ces chiffres-là, ils existent chez le Umota Olam, mais pas encore de la bonne manière, en quelque sorte, bien que ce soit un progrès. Et ces chiffres ne vont prendre leur vraie dimension, leur vraie signification chez les Bnei Israël. On va voir les 600 000, comme dit le Maharal. Ce qui va être important dans les 600 000, bien sûr, il faut beaucoup de monde, mais c'est le chiffre 6, puisque le 6, c'est dire que, si vous voulez, c'est les dimensions dont on a besoin pour le monde. Nous, on dit trois dimensions parce qu'on a des chiffres négatifs, mais si on n'a pas de chiffre négatif, on a besoin de 6 dimensions. D'accord? Le haut, le bas, et ensuite, dans le plan, on a 4 directions. Est, ouest, nord, sud, et le haut et le bas. Donc 6 dimensions, c'est le chiffre 6, ça veut dire il y a de quoi remplir le monde. C'est cette idée de plénitude qu'il y a avec 6. 4, c'est l'étendue, et 6, c'est le volume dans le monde. Et ensuite, 70, bon, ça c'est chiffre 7, ça c'est un truc spécifique au Bnei Israël, parce que ce chiffre 7, il vient de la Briat HaOlam. Ça correspond à aucun cycle dans le monde, ça correspond pas à, y a rien, c'est pas un cycle, ni solaire, ni lunaire, ni rien du tout. C'est une pure convention, enfin, qui vient de ce que, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours. Et c'est devenu, ce chiffre 7 a, du coup, cette importance. Mais ça c'est vraiment un chiffre juif, quoi. A priori. Mais les Umot HaOlam sont là pour préparer le 6, le 7, pardon, aussi le 70, qui est aussi une forme du 7, quoi. Donc, il faut demander, il faut interroger les Nevi'im, les Chachamim, pour t'expliquer ce qui s'est passé. Tu comprends que c'était déjà des étapes dans l'avancée du projet divin. C'est de ça qu'il s'agit. Qui chelek Hashem amo, Yaakov reven nachlato. Alors, car, disons, la portion d'Hachem, le chélek, la part d'Hachem, c'est son peuple, c'est Israël, son peuple. Et Yaakov, c'est le lot, ouais, le morceau, de son héritage. Bon. Ce que Rashi explique, qui chélek Hachem amo, lama kol zot, pourquoi tout ça, pourquoi 600 000, 70, etc. Les fils Shaya Chelko Kavush Beneihem, c'est-à-dire la part d'Hachem était incluse, elle était prise un peu comme pris dans les glaces, etc., prise parmi eux, parmi les peuples. Ve'atid latzet, mais cette part, elle devait sortir, il fallait que la part d'Hachem soit visible, il fallait qu'elle émerge. Umihu Chelko. C'est quoi la part d'Hachem? C'est Amo. C'est-à-dire que un peuple qui puisse devenir son peuple. Des peuples, il y en a plein, des goyim, il y en a plein, mais il faut qu'un devienne son peuple. Et Amo, ça veut dire Dafka Am, parce que la graphie de Am, c'est la même que Im, avec. C'est avec Hachem, en l'occurrence. Ou Mihu Amo, mais c'est qui le peuple d'Hachem? Yaakov Chevel Nachlato. Donc c'est Yaakov qui est effectivement son lot. Vous, Ashlishi Ba'avot. Maintenant, on va nous dire l'importance du nombre 3. Le 3, c'est la stabilité. Un trépied, c'est la forme stable. Donc, c'est Yaakov qui est le troisième, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et un Meshulash de Shalot Zuchuyot. Lui, il a trois mérites, en quelque sorte. Il a Srut Avi Avot. Il a le mérite de son grand-père Abraham. Srut Aviv, ou Sruto, qui est son mérite lui, propre. Arei Shlosha. Et pourquoi Shlosha? Alors il dit c'est comme Chevel. Chevel c'est une corde qui est tressée avec trois fils. Une corde c'est avec plusieurs fils, on tresse ensemble. Une corde qui est tressée avec trois fils. Sheu Asui Be Shlosha Gdilim. Et donc, Yaakov et ses enfants, ils sont l'héritage d'Hachem, ce qui n'est pas le cas, lo Ishmael ben Avraham, velo Esav beno shel Yitzhak, c'est pas Ishmael ben Avraham qui lui n'a qu'un seul mérite, c'est-à-dire celui de son père, ni Esav qui en aurait deux, Avraham et Yitzhak, mais Yaakov qui lui a les trois. Et donc, c'est ça c'est l'émergence de la part d'Hachem. Vous voyez, il y a toute une humanité, puis, qui se structure d'une certaine façon, mais qui n'est pas encore tout à fait la bonne. Et la part d'Hachem, c'est Amo, c'est son peuple, c'est Israël. Maintenant, le clan Israël, Imtseu Beretz Midbar. Il le trouva dans le pays du désert. Eretz Midbar. Uve Tou del Yeshimon. Et aussi dans la solitude des Yelala, des hurles, des cris. Des cris de Yeshimon de désolation. Il sauve nous, il l'entoura, il venait où, il lui a donné la bina, il lui a donné de quoi comprendre les choses, et il serait nous que Ishon Eino, et il le protège, il le garde, il le protège. Ça veut dire on le met presque dans un écrin, en quelque sorte, comme la prunelle de son œil. Le clan Israël est dans le désert. C'est-à-dire, Rachid dit, Otam matzalo ne'emanim be'eretz hamidbar, shekiblu aleihem torato u'malchuto ve'ulo. מה שלא עשו ישמעאל ועשיו, שנאמר לקמן, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן. ימצאו בארץ מדבר. Il les a trouvés dans le désert, il les a trouvés fidèles dans le désert. C'est-à-dire, la relation avec Hachem, elle s'est créée dans le désert. Dans le désert, c'est deux choses. C'est à la fois un endroit qui a aucune structure, donc qui va pas du tout avaler le clan Israël, mais c'est pas non plus un support. Il y a aucune aide. Ils sont pas en danger d'être avalés. Ils sont pas non plus l'avantage d'avoir une aide. Quand il y a la structure, pour établir des villes, on cherche un endroit, je sais pas, un fleuve ou etc., un endroit qui est proche où on a... Donc là, il n'y avait rien. Et là, ils étaient Néhémanim, ils sont fiables, ils ont fait confiance à Hachem. Et de nouveau, ils ont accepté trois choses. La Torah, ils ont accepté la royauté divine, et ils ont accepté Oulo, le hall de cette royauté, la charge, tout l'ensemble des mitzvot. Donc, seulement, et ça, eux, ils l'ont accepté, donc ça a l'air d'avoir affaire avec leur structure ternaire, en fait, avec le fait qu'ils sont les troisièmes, ils ont aussi accepté trois choses. Ce que n'ont fait ni Ishmael ni Esav, et où est-ce qu'on voit qu'ils ne l'ont pas fait, parce que dans le psukim plus bas, on verra que Hachem, quand il vient donner la Torah au Bnei Israël, il vient de Seir, il vient d'Esav, et il vient aussi d'Amparan, il vient aussi d'Ishmael, auquel il a proposé d'avoir la Torah, et on sait bien que ils ne l'ont pas accepté. Et les Bnei Israël, eux, au contraire, ils ont accepté. Donc, si vous voulez, ça commence. Il y a une émergence, et puis les Bnei Israël, ils établissent une relation avec Hachem sans support, ni rien, ni danger, en quelque sorte. Il n'y avait pas à lutter contre un environnement. Ils étaient hostiles, mais bon, ça, techniquement, Hachem a réglé ces problèmes-là. Il y a eu Amalek. Mais, en gros, il n'y avait pas de problèmes majeurs. Mais ensuite, donc ils étaient donc dans le désert, là ils ont tout accepté. Ubeto Yeliel Shimon, Eretz Sia Ushmama, c'était un pays désertique et Makom Ilelat Taninim Bnot Yana. Donc c'était une solitude de hurlements, de désolation, etc. Un pays de soif, de désolation. On entend les hurlements des chacals, je crois que des autruches, je pense qu'elle fait là-dedans. Même là, en fait, les Bnei Israël marquaient Afsham Nimshechu Achara Emuna. Très étrange comme formulation. Littéralement, Nimshechu, ils se sont laissés attirer par la Emuna, par la confiance. Quelque part, ils ont fait confiance. Il y a eu quelque chose, presque un phénomène naturel d'attraction. Ils ont été amenés à la confiance. À la Emuna, c'est Lo amro le Moshe ernetze le midbarot. Makom tia ushmama, shimamon. Kinyan shenemar, ou, comme effectivement on le voit dans le Navi, où Hachem dit, qu'il apprécie, Klal Israël, en fait, il dit, j'apprécie, l'erter harai bamidbar, le fait que tu m'as suivi dans le désert. Les Bnei Israël sont allés avec Hachem dans le désert. On leur a pas proposé d'emblée une sortie d'Égypte pour entrer dans un pays fabuleux, etc. Non, d'abord ils passent par le désert. Ils auraient pu dire mais tu es fou là, tu... Non, ils ont accepté.